Audiolib présente Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, lu par François Cognard. Pour tous les grands-parents du monde. Prologue. N'y plus rien voir. Tout devint sombre. Ce fut comme un habit de deuil. Et puis, ça et là, des scintillements, à la façon des taches que produit le soleil quand les yeux le fixent en vain derrière les paupières serrées, de même qu'on serre le poing pour résister à la douleur ou à l'émotion. Bien sûr, elle n'avait pas du tout décrit la chose ainsi. Dans la bouche d'une enfant de 10 ans, fraîche et inquiète, la détresse se formule sèchement, sans fioriture ni lyrisme. « Maman, c'est tout noir !» Mona avait lancé ces mots d'une voix étranglée. Une plainte, oui, mais pas seulement. Elle y avait, malgré elle, glissé un accent de honte que sa mère, chaque fois qu'elle l'identifiait, prenait avec gravité. Car s'il était bien quelque chose que Mona ne feignait jamais, c'était la honte. À peine celle-ci se nichait-elle dans un mot, une attitude, une intonation, que le sort en était jeté. Une vérité désagréable avait pénétré. « Maman, c'est tout noir !» Mona était aveugle. L'effet semblait dépourvu de cause. Rien de particulier ne s'était passé. Elle travaillait sagement à ses mathématiques, un stylo dans la main droite, un cahier coincé sous la paume gauche, à l'angle de la table où sa mère truffait d'ail un rôti bien gras. Mona était en train de retirer délicatement de son cou un pendentif qui la gênait parce qu'il se balançait au-dessus de sa feuille d'exercice et qu'elle avait pris la mauvaise habitude de se voûter pour écrire. Elle sentit une ombre lourde s'abattre sur ses deux yeux, comme s'ils étaient punis d'être si bleus, si grands, si purs. L'ombre ne vint pas du dehors, ainsi qu'elle vient communément, quand la nuit tombe ou quand les lumières d'un théâtre baissent d'intensité. L'ombre s'empara de sa vue depuis son propre corps, depuis l'intérieur. En elle-même s'était insinuée une nappe opaque, qu'il l'avait coupé des polygones tracés sur son cahier d'écolière, de la table en bois brun, du rôti posé plus loin, de sa mère en tablier blanc, de la cuisine carrelée, de son père assis dans la pièce à côté, de l'appartement de Montreuil, du ciel grisé de l'automne qui surplombait les rues, du monde entier. L'enfant, par un sortilège, plongeait dans les ténèbres. Fébrile, la mère de Mona téléphona au médecin de famille. Elle décrivit confusément les pupilles voilées de sa fille et précisa, parce que le docteur le lui demandait, qu'elle ne semblait souffrir d'aucun trouble du langage, ni de paralysie.
« Cela ressemble à un AIT »,
lâcha-t-il, sans vouloir se prononcer davantage. Il exigea dans l'immédiat de fortes doses d'aspirine et surtout l'acheminement en urgence de Mona à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, où il appellerait un confrère pour une prise en charge instantanée. Il ne pensait pas à lui par hasard. C'était un pédiatre formidable, réputé par ailleurs pour être un très bon ophtalmologue et accessoirement un hypnothérapeute de talent.
« Normalement, conclut-il, la cécité ne devrait pas excéder 10 minutes. »
Et il raccrocha. Il s'était déjà écoulé un bon quart d'heure depuis le premier cri d'alarme. Dans la voiture, la fillette pleurait, se tapait les tempes. Sa mère lui tenait les coudes, mais au fond d'elle-même, elle aurait aussi voulu taper sur cette petite tête rondelette et fragile, comme on cogne sur une machine en panne, en espérant bêtement la faire redémarrer. Le père, au volant de sa vieille Volkswagen cahotante, souhaitait attraper le mal dont sa petite était victime. Il était fâché, persuadé qu'il s'était passé un événement dans la cuisine et qu'on le lui cachait. Il ressassait l'inventaire de toutes les causes possibles, depuis une bouffée de vapeur jusqu'à une mauvaise chute. Mais non, Mona le déclara 100 fois. C'est venu tout seul. Et le père n'en croyait rien. On ne devient pas aveugle comme ça. Pourtant si, on devient aussi aveugle comme ça. La preuve. Et on, aujourd'hui, c'était Mona. Ses 10 ans. Et ses larmes de peur coulant à grands flots. Ses larmes dont elle attendait peut-être qu'elle lave la suie qui s'était collée à ses pupilles ce dimanche d'octobre, alors que tombait le soir. À peine arrivée au seuil de l'hôpital jouxtant Notre-Dame sur l'île de la Cité, elle interrompit brusquement ses sanglots et se figea. « Maman, papa, ça revient !» Postée dans la rue où soufflait un vent froid, elle balançait la nuque d'avant en arrière pour favoriser le reflux de sa perception. À la façon d'un store qui se hisse, le voile qui obstruait ses yeux se levait. Les lignes lui réapparurent, puis les arêtes des visages, les reliefs des objets proches, la texture des murs et toutes les nuances des couleurs, des plus vives aux plus sombres. L'enfant retrouva la silhouette menue de sa mère, son grand cou de cygne et ses bras frêles, et celle plus massive de son père. Enfin, elle perçut au loin l'envol d'un pigeon gris, ce qui la combla de joie. La cécité avait saisi Mona, puis l'avait relâchée. Elle l'avait traversée comme une balle troue la peau et ressort de l'autre côté du corps, faisant mal, certes, mais laissant toutefois à l'organisme le soin de cicatriser. « Un miracle !» pensa son père, qui compta scrupuleusement le temps qu'avait duré la crise, 63 minutes. Au service ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, il ne fut pas question de laisser repartir la petite avant d'avoir réalisé une batterie d'examens, fourni un diagnostic et des prescriptions. L'angoisse se trouvait certes ajournée, mais pas tout à fait dissipée. Un infirmier indiqua une salle au premier étage du bâtiment. C'était le cabinet du pédiatre, averti par le médecin de famille. Le docteur Van Horst était métis et frappé d'une calvitie précoce. Sa grande blouse blanche, rayonnante, contrastait avec la verdeur maladive des murs. Son immense sourire, qui creusait dans son visage de petites rides joviales, le rendait sympathique. Il n'en était pas moins dépositaire de nombreux drames. Il s'avança. « Quel âge as-tu ? » demanda-t-il d'une voix éraillée par le tabac. Mona avait 10 ans. Elle était la fille unique de 2 parents qui s'aimaient. Camille, la mère, approchait de la quarantaine. Elle était d'une taille modeste, arborait des cheveux courts et ébouriffés, avait dans la voix un reste lointain de gouaille des faubourgs. Son charme tenait à son côté légèrement déglingue, disait son homme, mais soutenue par une détermination redoutable. En elle, l'anarchie se tressait sans cesse à l'autorité. Elle travaillait dans une agence d'intérim, en bon employé, impliqué, zélé. Le matin, du moins. L'après-midi, c'était autre chose. Elle s'épuisait en bénévolat. Toutes les causes étaient bonnes. Des vieillards isolés aux animaux battus. Quant à Paul, il avait passé les 57 ans. Camille était sa seconde femme. La première avait disparu avec son meilleur ami. Il portait une cravate pour faire oublier ses chemises au col élimé et besognait comme petit brocanteur, surtout passionné par la culture américaine des années 1950, jukebox, flipper, affiche. Et puisque tout avait commencé dans son adolescence avec une collection de porte-clés en forme de cœur, il en possédait une impressionnante panoplie qu'il ne souhaitait pas vendre et qui, de toute façon, n'aurait intéressé personne. Avec le développement d'Internet, sa boutique, perdue dans Montreuil, avait bien failli fermer ses portes. Alors il s'y était mis à son tour, avait fait valoir son expertise avec un site web qu'il actualisait sans cesse et traduisait en anglais. Malgré un sens des affaires proche du néant, il pouvait compter sur une clientèle de collectionneurs attentifs qui le sauvait régulièrement de la ruine. L'été précédent, il avait réparé une édition du flipper Gottlieb, Wishing Well, de 1955, et en avait tiré la coquette somme de 10 000 euros. Une transaction salutaire après des mois de disette. Et puis, à nouveau, le néant. La crise, lui disait-on. Paul éclusait chaque jour à la boutique une bouteille de vin rouge, puis l'affichait comme un trophée sur un de ces égouttoirs en forme de hérisson qui avait fait la postérité de Marcel Duchamp. Il levait son verre seul, sans trouver le moyen d'en vouloir à quiconque. Il trinquait dans sa tête à Mona, à sa santé. Tandis qu'un infirmier conduisait l'enfant dans le dédale de l'hôpital pour répondre à différents tests, le docteur Van Horst, calé dans un énorme fauteuil, livra un premier diagnostic à Paul et Camille. AIT, ou accident ischémique transitoire. Cela signifiait que le sang avait momentanément cessé d'irriguer les organes et qu'il fallait désormais déceler le motif de ce dysfonctionnement. Mais le cas de Mona, poursuivit-il, le déroutait. D'un côté, la crise, rarissime chez une fillette de son âge, lui paraissait violente puisque les deux yeux avaient été atteints et que sa durée avait dépassé une heure. De l'autre, elle avait totalement épargné sa faculté de se mouvoir et de parler. L'IRM en dirait sans doute plus. Il fallait, ajouta-t-il d'un air gêné, se préparer au pire. Mona dut s'allonger sur un plateau dans une horrible machine et s'y abandonner docilement, sans bouger. On lui demanda d'enlever son pendentif. Elle refusa. C'était une fine chaîne en fil de pêche, lestée d'un minuscule coquillage, qui avait appartenu à sa grand-mère et qui lui portait bonheur. Elle l'avait toujours eu, et son dadé, adoré, portait le même de son côté. Les deux fétiches les connectaient l'un à l'autre, songeait-elle, et elle ne voulait pas se sentir arrachée à son grand-père. Puisque le pendentif ne contenait pas de métal, on le lui laissa. Alors sa tête, sa jolie tête, nimbée de cheveux bruns mi-longs aux lueurs fauves et dotée d'une adorable bouche ronde, fut encerclée dans un caisson ogresque où résonnait un bruit d'usine. Pendant les 15 minutes que dura la torture, Mona se chanta des chansons sans discontinuer pour résister, pour injecter un peu de bonne humeur et de vie dans ce cercueil. Elle se chanta une berceuse un peu mièvre que lui fredonnait sa mère quand elle l'abordait naguère. Elle se chanta une chanson pop, une mélodie qui tournait en boucle dans les supermarchés et dont elle appréciait le clip plein de jeunes garçons gominés. Elle se chanta d'obsédants jingles publicitaires. Elle se chanta aussi une souris verte en souvenir de ce jour où elle en hurlait les paroles pour exaspérer son père, sans succès. Les résultats de l'IRM tombèrent. Le docteur Van Horst convoqua Camille et Paul, qu'il s'empressa de rassurer. Il n'y avait rien. Strictement rien. Sur les images en coupe, l'anatomie du cerveau ne laissait apparaître que des zones homogènes. Pas de tumeur de ce côté-là. D'autres examens furent menés sans fin. Pendant toute la nuit, du tréfonds des pupilles jusqu'à l'oreille interne en passant par le sang, les os, les muscles, les artères. Rien non plus. Le calme après la tempête. Celle-ci avait-elle jamais eu lieu? Le cadran d'une horloge perdue dans un couloir de l'Hôtel-Dieu indiquait 5 heures du matin. Une image de comptine vint à l'esprit de Camille. On aurait dit, confia-t-elle épuisée à son époux, qu'un être maléfique avait dérobé les deux yeux de Mona avant de les lui rendre. Comme s'il s'était trompé de victime, ajouta Paul. Ou comme s'il avait envoyé un signe, un avertissement, et s'apprêtait à réitérer son forfait. Songèrent l'un et l'autre en silence. Dans la cour, la sonnerie retentit. Le flot d'enfants, canalisé par Madame Hadji, gagna le deuxième étage. L'institutrice avertit ses élèves de CM2 qu'ils ne verraient plus Mona, leur camarade, jusqu'à la rentrée des congés de la Toussaint. Elle-même venait d'être prévenue par Camille, qui au téléphone lui avait tout expliqué ou presque de la nuit infernale, sans cacher la gravité des événements. Évidemment, les enfants posèrent des questions. Avait-elle eu le droit de partir en vacances une semaine avant tout le monde? Elle est un peu malade, se borna à avancer la maîtresse, sans se satisfaire franchement de la formule. Un peu malade? La chance! S'exclama Diego au troisième rang, et sa voix suraiguë reçut l'assentiment de toute la classe. car la plupart des enfants se figurent la maladie comme un sésame vers la liberté. Au fond de la salle, juste à côté des rideaux poudrés de craie, Lily et Jade, les deux meilleures amies de Mona qui connaissaient chaque recoin de sa chambre, salivaient davantage encore. Ah, qu'elles auraient aimé être avec elle! Un peu malade? Oui, d'accord, songeait Lily, mais à coup sûr, elle allait passer ses journées dans la brocante de son père. Et Jade, les yeux tournés vers la place laissée vacante par Mona, se projetait avec délice en sa compagnie, inventant toutes sortes de jeux et d'histoires dans le modeste local rempli de vieux objets sentant l'Amérique, tout un bric-à-brac d'objets chatoyants, amusants et mystérieux qui faisaient rêver les enfants. Mais Lily protesta. « Non, non, quand elle est malade, c'est son papy Dadé qui vient la garder. Et moi, il me fait peur. » Jade força un rire moqueur pour montrer qu'elle, rien ne l'effrayait et surtout pas le grand-père de Mona. Pourtant, au fond d'elle-même, la fillette le concédait. Oui, devant ce vieil homme immense, maigre et balafré, parlant d'une voix profonde et minérale, elle n'en menait pas large non plus.
« Allô, papa, c'est moi. »
Il était midi quand Camille, les membres engourdis, se décida à téléphoner à son père. Henri Vuillemin refusait d'utiliser un portable. Il répondait invariablement aux appels sur son fixe avec un petit « oui » sec et brûlant qui ne laissait guère de place à l'enthousiasme. Sa fille détestait ce rituel et regrettait chaque fois le temps où, encore en vie, sa mère décrochait le combiné. Elle égrena les syllabes. « Papa, faut que je te dise. Il est arrivé hier soir une chose terrible. » Elle raconta tout dans l'ordre, en cherchant à maîtriser son émotion.
« Eh bien ?»
demanda Henri avec une pointe d'impatience. Mais Camille avait tellement retenu ses larmes au fil de son histoire qu'un gigantesque sanglot souleva son corps et l'étouffa. Elle fut incapable de répondre.
« Chérie, eh bien ?»
la pressa son père. Ce chéri inattendu lui procura une bouffée d'oxygène. Elle reprit sa respiration et souffla « Rien, pour le moment rien. Ça va, je crois. » Alors Henri exhala un long soupir de soulagement, puis il bascula la nuque en arrière, renversa la tête et observa aux moulures de son plafond les motifs joyeux de fruits dodus, de rinceaux et de fleurs printanières.
Laisse-moi lui dire un mot.
Mais Mona, recroquevillée dans un fauteuil du salon sous un plaid roux, s'était assoupie. Le poète Ovide décrivait la phase où s'endort la conscience comme une entrée dans une immense grotte abritant, alangui et indolent, le dieu sommeil. Il imaginait une cavité inaccessible à Phébus, maître du soleil. Mona avait appris de son grand-père qu'il n'existait pas à l'échelle humaine de voyage plus régulier que celui vers ces contrées mystérieuses et changeantes. Il convenait donc de ne pas négliger ces terres où l'on chemine sans cesse tout au long de la vie. Les jours suivants, le docteur Van Horst, à l'Hôtel-Dieu, engagea de nouveaux examens. Ils ne révélèrent toujours pas d'anomalie particulière. L'explication de ces 63 minutes de cécité s'obstinait à faire défaut, à tel point que le praticien rechignait désormais à employer l'appellation « accident ischémique transitoire », laquelle supposait une déficience vasculaire dont il n'était plus tout à fait sûr. En l'absence de diagnostic clair, il proposa à Mona et à ses parents de recourir à l'hypnose. Cette idée suscita une stupeur muette chez Paul. Quant à la fillette, elle n'était pas bien certaine de savoir de quoi il s'agissait. Elle assimilait ce terme au « jeu du foulard » dont elle avait vaguement entendu parler à l'école, ce qui lui faisait affreusement peur. Pour corriger cette fausse perception, Van Horst expliqua qu'en plongeant Mona en état d'hypnose, il pourrait la placer temporairement sous son influence. Une telle expérience lui permettrait alors de remonter dans le temps et de l'acheminer vers ce moment originel où sa vue s'était éteinte, de lui faire revivre et, potentiellement, d'en identifier la cause. Paul s'insurgea. Il n'en était pas question, c'était dangereux. Van Horst n'insista pas. Un enfant, pour être hypnotisé efficacement, doit s'abandonner en toute confiance. Or, entre le préjugé de Mona et la surréaction fâchée de son père, le terrain était désormais miné. Camille, elle, n'avait rien dit. Aussi, Van Horst prescrivit-il un régime médical classique à la jeune patiente. Des contrôles sanguins et artériels hebdomadaires, des visites chez l'ophtalmologue, une convalescence de 10 jours. Il somma Paul et Camille de surveiller toute apparition de signes subjectifs à caractère symptomatique, ce qui signifiait qu'ils devaient se montrer extrêmement attentifs aux ressentis de leur fille. Il suggéra à ce titre la consultation d'un pédopsychiatre. C'est de la prophylaxie du quotidien plutôt que de la thérapeutique à proprement parler, assura-t-il. Paul et Camille enregistraient confusément ces recommandations, mais il n'y avait au fond qu'une seule interrogation qui les travaillait. Est-ce que Mona risque, à terme, de perdre la vue ? Curieusement, le docteur Van Horst n'évoqua à aucun moment la menace d'une rechute définitive, et malgré la hantise qu'en avaient les parents, ils préférèrent éviter le sujet. Ils se disaient même qu'après tout, s'il était éludé par le médecin, c'était qu'il n'avait pas lieu d'être abordé. Henri Vuillemin l'aborda frontalement avec sa fille. Il n'était pas du genre à fuir les questions, fussent-elles des abîmes. D'habitude fort avare en sollicitations téléphoniques, sinon pour entendre Mona, il multiplia les appels cette semaine-là. D'une voix chaude et passionnée, il harcelait Camille. Oui ou non, sa petite fille chérie, le trésor de sa vie, allait-elle devenir aveugle ? Henri réclamait par ailleurs avec insistance de voir Mona, et Camille ne pouvait décemment pas le lui refuser. Elle lui suggéra de venir le dimanche de la Toussaint, une semaine exactement après la crise de cécité. Paul, qui devinait la conversation, se résigna secrètement et avala presque cul-sec un verre de Bourgogne râpeux. Devant son beau-père, il se sentait misérablement bête. Mona, en revanche, lorsqu'elle apprit la nouvelle, trépigna d'impatience. Ce grand-père, plein d'années et de force, elle l'aimait. Elle adorait aussi observer à quel point tous ceux qui le croisaient se laissaient charmer par son interminable silhouette et ses lourdes lunettes à grosses montures presque carrées. En sa compagnie, elle se sentait protégée et transportée. Henri s'était toujours attaché à lui parler comme il aurait parlé à un adulte. C'était elle qui réclamait cette asymétrie et la savourait, s'en amusait. Elle n'avait jamais peur de ne pas comprendre et riait des erreurs et des malentendus, car elle surveillait son propre langage en retour, et c'était évidemment plus un jeu qu'un enjeu. Henri ne souhaitait pas faire d'elle un petit singe savant. Il ne voulait pas être une de ces parodies de grand-père qui traquent les fautes de la jeunesse pour mieux les corriger d'une voix docte. Ce n'était pas dans sa nature. Il ne lui avait jamais fait faire ses devoirs, ne se mêlait pas des bulletins de notes. En outre, il adorait la manière dont Mona s'exprimait. Plus encore, il était fasciné par ses tournures de phrases. Pourquoi, là, il n'avait pas la clé. Il échouait à comprendre. Depuis toujours, il était obnubilé, hanté par quelque chose dans son langage enfantin. Était-ce un élément en plus ou un je ne sais quoi en moins, une qualité ou un défaut? Cette impression était d'autant plus troublante qu'elle n'était pas récente. La petite musique de Mona avait de tout temps sécrété une énigme qu'Henri était bien résolu à découvrir un jour à force d'écoute. Camille concédait parfois son étonnement devant une relation qu'elle jugeait trop belle pour être vraie. Mais elle reconnaissait que cela marchait à merveille et que sa fille en était heureuse. Et puis Henri, qui citait volontiers « L'art d'être grand-père » de Victor Hugo, rappelait à qui voulait l'entendre un des principes cardinaux de la transmission. Peu importe qu'on comprenne immédiatement tout ce que quelqu'un dit, comme s'il fallait que chaque nouveau mot soit déjà un arbre épanoui dans l'immense verger du cerveau. Les éclosions sauraient venir le jour dit, à condition d'avoir tracé des sillons et planté des graines. Ces sillons et ces graines, C'était chez Henri Vuillemin un débit de mots riches et sûrs, qui vous accrochait dès la première intonation pour ne plus vous lâcher. C'était un parler très simple, mais d'une telle envergure que c'en était euphorisant. C'était une scansion de conteur qui souvent accélérait avant de ralentir, puis de se colorer d'émotions douces. C'était un rouleau compresseur d'expérience du monde et d'érudition tranquille. Ainsi, avec ce dadé, la relation était d'une nature à part. Des grands-parents aux petits-enfants, des petits-enfants aux grands-parents, se crée parfois un lien miraculeux qui tient au fait que, par une sorte de courbe existentielle, les aînés reviennent, du haut de leur vieil âge, au sentiment de leur prime jeunesse et saisissent, mieux que quiconque, le printemps de la vie. Henri Vuillemin occupait un bel appartement de l'avenue Ledru-Rollin, juste au-dessus du bistrot du peintre, un établissement étroit, boisé, imitant le style Art Nouveau. Il y descendait chaque matin et y avait ses habitudes. Un café et un croissant, la lecture de la presse nationale, un échange de ci de là avec le tout venant des clients et les serveurs en pause. Il se sentait d'un vieux monde et rituellement marchait d'un pas très lent jusqu'à la place de la Bastille, aimait examiner les meubles dans les vitrines de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, remontait vers la place de la République par le terre-plein du boulevard Richard-Lenoir et repiquait sur le boulevard Voltaire. En fin d'après-midi, chez lui, il compulsait les livres d'art qui s'amoncelaient jusqu'au plafond. Henri, qui dépassait d'un centimètre le général de Gaulle, s'emparait sans marchepied ni escabeau des plus inaccessibles. Et par un curieux hasard, c'était d'ailleurs régulièrement cela qui l'attirait le plus. Sa mémoire était prodigieuse, encore qu'il eût fallu distinguer sa propension à parler de ce qu'il savait et ses souvenirs personnels, qu'il protégeait sous des strates de pudeur. Mona connaissait la règle. Le seul interdit avec son grand-père, c'était d'évoquer Colette Vuillemin, qu'il avait laissé veuf 7 ans auparavant. Au diapason de son père, Camille n'en disait jamais rien non plus. L'enfant avait beau tenter d'ouvrir une brèche de temps en temps, elle se heurtait à un silence de plomb. Colette, on n'en parlait pas. Jamais. Seule exception à ce tabou, Henri gardait autour du cou le fétiche en hommage à son épouse disparue. C'était un joli petit sérite goumier monté sur un fil de pêche qu'il avait ramassé avec elle sur la Côte d'Azur lors de l'été 1963. Il ne savait plus quel jour exactement, mais se rappelait la chaleur caniculaire et avoir juré bien des choses à Colette. Mona, on l'a dit, portait le même pendentif, hérité de sa grand-mère. Nous avons tous nos manières de jurer. Henri Vuillemin, lui, jurait sur ce qu'il y a de plus beau sur terre. L'expression surprenait Mona, et quand elle l'entendait, elle haussait systématiquement les épaules avec un petit rire confus. Ce qu'il y a de beau sur terre, c'était à la fois un peu tout et un peu rien. Et puis, elle se demandait si lui, son grand-père vénéré, en faisait partie. Henri avait de toute évidence été un jeune homme attirant et demeurait imposant, charmant, spectaculaire. Sa figure d'octogénaire, émaciée et aiguë, dégageait une vigueur et une intelligence formidablement séduisantes. Mais il était balafré. Une cicatrice déchirait le pan droit de son visage, naissait sous la pommette et remontait jusqu'aux sourcils. La blessure avait dû être très douloureuse. Elle n'avait pas seulement arraché un sillon de peau, mais un morceau de la cornée. C'était un souvenir de guerre, un souvenir horrible. Le 17 septembre 1982, lors d'un photoreportage au Liban pour le compte de l'agence France Presse, un phalangiste lui avait décoché un coup de couteau pour l'empêcher de progresser. Il était en train d'approcher du camp de Chatila. La rumeur disait que des massacres s'y perpétraient, que des réfugiés palestiniens y étaient exécutés arbitrairement, sans procès, en représailles à l'assassinat du président Bachir Gemayel. Il avait voulu vérifier, témoigner. On lui avait barré la route avec une violence inhumaine. Henri avait perdu beaucoup de sang et l'usage de son œil. Cette infirmité, associée à sa haute taille et au fil des années à une maigreur de plus en plus prononcée, avait donné à son apparence un air surnaturel. Le beau reporter, qui ressemblait à Eddie Constantine, était devenu un personnage de légende. Le jour de la Toussaint, Mona tenait une bonne forme. Ses parents avaient œuvré à ce que l'atmosphère plombée de novembre fût rendue joyeuse. Jade et Lily, les deux copines, étaient passées regarder un volet de Toy Story, le film d'animation où des jouets prennent vie. Elles avaient chahuté gentiment, Jade surtout. C'était une fillette espiègle et jolie, avec un regard très fin d'Eurasienne, une peau mate et des cheveux peignés à la perfection. Elle était pourtant animée par une étonnante passion, faire des grimaces. Elle savait métamorphoser son harmonieux visage en un théâtre mobile et détraqué, où des expressions insolites et burlesques passaient telles des comédiens en furie. Mona en réclamait toujours plus, ravie. À 19h, l'interphone retentit. Paul plissa les lèvres et leva les sourcils. Camille appuya sur le bouton. « Papa ?» C'était bien lui, arrivant à la minute près. Paul, après l'avoir salué, partit accompagner Jade et Lily chez leurs parents respectifs, et le temps du voyage, Mona, sa mère et son grand-père se retrouvèrent tous les trois dans l'appartement. Après une irrépressible effusion de joie, la petite, qui s'était gardée de raconter sa mésaventure à ses deux amis, se lança dans le récit détaillé de ses 63 minutes de calvaire et des épreuves qu'elle avait endurées à l'hôpital. Camille ne l'interrompit pas. Or, Henri, tout en écoutant Mona parler et parler encore, examinait avec une distance toute clinique les lieux où vivait l'enfant. Même sa chambre, malgré le toc enchanteur du décor, lui parut extrêmement triste. Ce papier peint à motif de fleurs en guirlande, ses bibelots sertis de paillettes en forme de cœur ou d'animaux, ses peluches roses ou brunes, ses posters grotesques de vedettes à peine sorties de l'adolescence, ses bijoux en plastique, ce mobilier imitant celui des princesses de dessins animés, les couleurs acidulées de tout ce bazar le prirent à la gorge. Il n'y avait dans cet ensemble dégoulinant de mauvais goût que deux trouées sur une forme de beauté. Une robuste lampe américaine industrielle des années 1950 au bras articulé que Paul avait chiné, offerte à Mona et fixée sur son petit secrétaire. Et puis, au-dessus du lit, sous un cadre, une affiche d'exposition reproduisant un tableau. Il y crépitait des couleurs extraordinairement subtiles, de tonalités froides. Elle dessinait une femme nue, de profil et penchée en avant, assise sur un tabouret garni d'un tissu blanc, la cheville gauche posée sur le genou droit. Dans un angle, on pouvait lire « Musée d'Orsay, Paris, Georges Seurat, 1859-1891 ». Malgré ces exceptions, Henri faisait le constat affligeant que le temps de l'enfance est par commodité majoritairement imprégné d'objets futiles et laids. Et Mona n'échappait pas à la règle. La beauté, la vraie beauté artistique, n'entrait que clandestinement dans son quotidien. C'était absolument normal, notait Henri. L'affinement du goût, la construction de la sensibilité viendrait plus tard. À ceci près, et cette pensée l'étrangla, que Mona avait bien failli perdre la vue. Et que, si ses yeux s'éteignaient définitivement dans les jours, les semaines ou les mois à venir, elle n'emporterait avec elle dans les confins de sa mémoire que le souvenir de choses clinquantes et vaines. Une vie entière dans le noir, à composer mentalement avec ce que le monde produit de pire, sans échappatoire pour les souvenirs. C'était impossible, c'était terrifiant. Au grand agacement de sa fille, Henri se montra taciturne et distant tout au long du dîner. Quand enfin Mona partit se coucher, Camille, d'un air résolu, monta le volume du saxophone de Coltrane qui passait dans un vieux jukebox en chrome pour masquer les voix et s'assurer que la petite n'entendrait rien. « Papa, Mona semble pour l'instant bien digérer, Elle hésita sur les termes. Ce qui vient de se passer. Mais le médecin recommande le suivi d'un pédopsychiatre. Ce sera peut-être bizarre pour elle, et je me demandais si tu pouvais la conduire au rendez-vous, histoire qu'elle se sente rassurée. Un psy? Est-ce vraiment ce qui va l'empêcher de devenir aveugle? Ce n'est pas la question, papa. Je crois que ça l'est, et ça le sera tant que vous n'oserez pas la poser au médecin. Le docteur comment déjà? Il s'appelle Van Horst, et il est très bien. Avança maladroitement Paul pour prendre part à la conversation. « Papa, attends, » reprit Camille. « Écoute-moi. Paul et moi allons tout faire pour qu'il n'arrive rien à Mona, tu m'entends? Mais elle a 10 ans, et on ne peut pas faire comme si elle n'avait rien vécu. Le médecin dit que son équilibre psychique est une priorité. Je te demande donc juste de voir si tu veux t'occuper de ça. Car je sais que Mona te fera confiance. Tu m'entends, papa ?» Henri entendait parfaitement. Mais à cet instant précis, il s'était allumé dans sa tête, en une fraction de seconde, une idée apollinienne qu'il garda jalousement pour lui. Il n'emmènerait pas sa petite fille voir un pédopsychiatre, non. Il lui ferait suivre à la place une cure d'une toute autre nature, une cure capable de compenser la laideur dont sa jeunesse était abreuvée. Il allait falloir que Mona, qui avait toute confiance en lui, qui lui prêtait un crédit qu'elle n'accordait à aucun autre adulte, l'accompagne là où l'on conserve ce que le monde a fourni de plus beau et de plus humain. Il allait falloir qu'elle l'accompagne dans les musées. Si par malheur, Mona devenait un jour aveugle à jamais, elle jouirait au moins d'une sorte de réservoir au fond de son cerveau où puiser des splendeurs visuelles. Le grand-père tenait ainsi son projet. Une fois par semaine, selon un rituel immuable, il prendrait Mona par la main et l'emmènerait contempler une œuvre, une seule, d'abord dans un long silence, pour que l'infini délice des couleurs et des lignes pénètre l'esprit de sa petite fille, puis en mots, afin qu'elle dépasse le stade du ravissement visuel, pour comprendre comment les artistes nous parlent de la vie et combien ils l'éclairent. Pour sa petite Mona, il imaginait donc mieux que la médecine. Ils iraient au palais du Louvre d'abord, au musée d'Orsay ensuite, et enfin à Beaubourg. Là, oui, là, en ces lieux dévolus à la conservation de ce que l'humanité avait fourni de plus audacieux et de plus beau, il trouverait un fortifiant pour sa petite fille. Henri n'était pas de ces amateurs qui se contentent en soi hors du monde, du poli d'une chair peinte par Raphaël ou du rythme d'une ligne scandée par les fusains de Degas. Il aimait les qualités quasi incendiaires des œuvres. Parfois, il disait « L'art, c'est de la pyrotechnie ou c'est du vent. » Et il aimait que dans leur totalité ou par un détail, une peinture, une sculpture, une photographie soit capable d'attiser le sens de l'existence. Au moment où Camille lui demandait son aide, Henri fut ainsi assailli par des centaines d'images. Les volumes rocheux dans le dos de la Joconde, le singe sculpté au revers de l'esclave mourant de Michel-Ange, l'expression alarmée de l'enfant aux boucles blondes à droite du serment des Horaces, les étranges reins gélatineux de l'agneau de Goya, et puis les mottes de terre dans le labourage nivernais de Rosa Bonheur, la signature en forme de papillon qu'utilise Whistler dans le portrait de sa mère, l'absidiole chancelante de l'église de Van Gogh, ou encore les couleurs de Kandinsky, les brisures de Picasso ou l'outre noire de Soulages. Tout cela jaillit comme autant de signes l'appelant, demandant à être vu, entendu, compris, aimé. Comme un contre-feu aux cendres qui menaçait les yeux de Mona. Henri arbora un grand sourire. Entendu. Je prendrai Mona avec moi tous les mercredis après-midi. À partir de maintenant, c'est moi, et uniquement moi, qui gère ce suivi psychologique. Ce sera notre affaire à nous deux. Est-ce d'accord?
Tu vas trouver quelqu'un de bien, papa? Tu vas demander conseil à tes vieux amis?
Est-ce d'accord sur le principe?
Je m'en occupe sans question ni intervention de quiconque. Mais tu vas pas prendre un pédopsychiatre au hasard, tu m'entends? Tu feras bien attention. Est-ce que tu me fais confiance, ma chérie? Oui, affirma Paul avec autorité pour contrer toute hésitation de Camille. Mona vous admire et vous respecte. Et elle vous aime comme elle n'aime personne d'autre. Alors oui, on vous fait confiance. Camille, aux mots fermes de son mari, acquiesça tendrement sans rien ajouter. Henri sentit son œil valide traversé par une lueur un peu humide. Le saxo de Coltrane faisait onduler les murs. Mona, dans sa chambre, dormait, veillée par Georges Seurat.